Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je vois quelqu'un là. Il faut dire qu'on commence. Bon, alors j'ai le grand honneur d'avancer vers la toute dernière séance qui va être composée par des speakers. Jean-Michel Frodon, qui va parler d'un certain cinéaste qui s'appelle Amos Gitai. Et après, il y a Naum Kleman, qui dirige l'archive d'Eisenstein, qui va parler de deux cinéastes soviétiques, dans lesquels un, qui est Dziga Vertov, qui était né dans les mêmes lieux que mes grands-parents maternels, c'est-à-dire Bialystok. Alors, Dziga Vertov, il est célèbre parce qu'il était né à Bialystok, c'est ça? Alors, j'ai le grand plaisir, merci. Tu peux donner un à mon ambassadrice? Celle-là qui était ainsi avec Marie-Josée. Donne-la un parce que c'est ça. Merci. Alors, c'était un grand travail qu'on a fait avec plusieurs personnes. Tout à l'heure, je vais remercier tout le monde. Alors, moi, je vais faire une petite conclusion à la fin. Et peut-être Eki Omar, s'il est d'accord, il va nous faire un petit note de musique iranienne pour rétablir l'axe israélo-iranien pour terminer cette belle colloque. Ouais. Ah, vous êtes d'accord, hein? Qu'on finit avec la musique. Kiomar, you will end up, when we finish, you will do another piece of music to show the Iranian-Israeli friendship against the world. OK, merci, et merci à tout le monde. Et je sais qu'on est tard, alors je laisse la parole à Jean-Michel Frodon.
Bonjour, rebonjour, merci Amos, merci à vous tous d'être là. Je parle là dans une situation un peu étrange parce que ce dont je vais parler, nous en parlons d'une certaine manière depuis deux jours constamment, donc je vais être en situation de recroiser des choses qui se sont dites ici. J'espère que en fait ça fonctionne bien et que c'est plutôt bénéfique de se repartager un certain nombre de propositions qui ont déjà été avancées par les nombreux intervenants qui ont participé à ces deux journées. L'image que vous voyez au-dessus de moi est une archive. C'est une archive dans un des sens que prend ce mot chez Amos Gitai. Ce fruit que vous voyez m'a été offert il y a 19 ans dans sa maison du Wadi Rushmia par Youssef, un des habitants de ce Wadi, à l'époque d'ailleurs avec sa femme, le dernier habitant. Youssef que je connaissais pour avoir passé du temps avec lui à trois reprises dans les trois films qu'Amos a consacrés à ce lieu à part, en plein Haïfa et aux gens qui y vivaient. Ce fruit, il n'a plus quitté ma table de travail depuis tout ce temps. C'est un présent venu du passé et venu d'un lointain avec lequel ont été tissés tant de liens pour toujours, même si je n'ai jamais revu Youssef, ou plus exactement si je l'ai revu encore ce matin, mais autrement, sous les traits d'un autre Youssef, Youssef Abou Warda, qui jouait dans Anna Arabia, un rôle inspiré du Youssef qui vivait dans le Wadi Rushmia. Et ce n'est pas tout à fait indifférent que le nom de ce fruit, ce soit une grenade. Comment le cinéma d'Amos Gitai fait archive? C'est une question... Il y a quelque chose d'un peu biaisé dans cet intitulé, qui n'est pas une question qui s'écrit sans point d'interrogation. C'est biaisé parce que, documentaire ou fiction, tout film est une archive. Pour des tas de raisons, la plus évidente, la plus massive, étant que la caméra enregistre toujours davantage que ce qui est voulu par le réalisateur et en garde la trace. Et donc, même les films qui veulent raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la conservation, le fait de documenter le monde, le font aussi de toute manière. Hier, en écoutant la très belle intervention de Laurent Bell, je songeais à ce grand livre de Paul Ricoeur qui s'appelle « La mémoire, l'histoire et l'oubli ». et où ils discutent entre autres d'ailleurs de Hayden White, qui a été évoqué aussi si bien et si utilement ce matin par Uzi Eliada. Et je pensais à la manière dont Ricoeur négligeait assez incompréhensiblement les puissances du cinéma pour répondre aux questions légitimes qu'il formule, en particulier à partir de ce qu'il appelle la représentance, qui serait cette procédure qui, dépassant les apories de la mémoire et de l'oubli, les contradictions de l'histoire historienne et du récit fictionnel, permettrait, je le cite, la présence de l'absent en tant qu'absent. Alors que le cinéma est bien un, sinon le dispositif de production sensible, de l'avoir été comme avoir été. Et que donc, par ce qui est là, le dispositif même du cinéma, nous avons d'ores et déjà une production d'archives. Mais il est possible d'affirmer, et c'est l'hypothèse que je défendrai ici, que les films d'Amos Gitai, documentaires et de fiction, sont davantage une archive que les autres. Parce que ce cinéaste, sans en faire d'ailleurs forcément la visée principale de sa réalisation sur le moment, entretient un rapport particulier à l'histoire, à la trace et aux transformations dans le temps. Les exemples les plus évidents concernent les trilogies « Une maison à Jérusalem » et « Wadi ». Il en a été très bien parlé ce matin, je ne vais pas m'étendre dessus. Rappeler juste, pour ceux qui n'auraient pas été là ce matin, que ce sont deux ensembles documentaires qui, chaque fois, revisitent les mêmes lieux à plusieurs années d'écart. Ils le font chacun d'une manière particulière, selon des dispositifs de réalisation distincts et avec des écarts temporels entre les moments où ils y retournent, qui sont eux aussi différents, 1980, 98 et 2005 pour Une maison à Jérusalem, 81, 91 et 2001 pour les trois Wadi. Ces deux ensembles font archive, on le comprend bien, ça va un peu de soi, parce qu'ils concernent à chaque fois un lieu, une maison à Jérusalem dans la première trilogie, une sorte de friche en milieu urbain à Haïfa pour la seconde, et que des personnages y habitent, ou ces personnages y sont liés. Certains n'y habitent pas ou n'y habitent plus, mais ils y restent liés. Et ces effets de continuité, d'une continuité qui est incarnée par des humains et matérialisée par des espaces, engendrent ce que j'ai envie d'appeler une puissance d'accumulation de savoir utile générée par le passage du temps. Et moi, en toute modestie, j'en ferai assez volontiers une définition du mot « archive » telle que j'essaye de l'employer ici. Une accumulation de savoir utile générée par le passage du temps, ça me semble donc une définition possible de ce qu'on entend par « archive » sans préjuger de l'existence et de la pratique de personnes et d'institutions qui s'en occupent. Puisque je parle ici de l'archive, du processus que cela désigne, et pas seulement des archives, le mot qui, au pluriel, désigne à la fois le contenu, les documents, ce qu'on accumule, et le contenant, les bâtiments, les institutions qui les recueillent. Mais Karen Moore a admirablement développé cette complexité sémantique à l'intérieur du mot archive ce matin. Et on peut comparer ce double sens du contenu et du contenant à ce qui a été dit hier de manière très stimulante et éveillant beaucoup d'échos par Emmanuel de Marcimota à propos du théâtre. Ce phénomène, celui de faire archive, donc au singulier, de tout film, de tout geste de cinéma d'Amos Gitai, on le retrouve tout aussi actif dans ce qui relève, à n'en pas douter, du cinéma de fiction. Celui qu'on reconnaît immédiatement comme relevant de la fiction, avec un scénario et des acteurs. Le très beau récit que nous a donné hier Marie-Josée Sanselme à propos de Tsili, du nécessaire détour par le délai, par l'écart dans le temps et par la fiction pour approcher la vérité, trouve, chez qui sait accomplir ce cheminement, l'expression de sa richesse et de sa légitimité. En réalisant, par exemple, la trilogie des villes, d'Evarim, Yom Yom et Kadosh, 95, 98 et 99, Gitai a aussi fait un travail d'archives, alors que ce sont des films, entièrement des films de fiction. C'est un travail d'archives un peu pour la description sur le strict plan urbanistique des trois villes dont il parle, mais beaucoup, mais surtout sur la nature des rapports humains et sociaux, des rapports à l'histoire, des rapports à l'avenir, des rapports à la religion, des rapports à un moment donné de l'histoire de son pays. Et on dirait la même chose d'une autre trilogie majeure, une des plus importantes sous-ensemble dans l'œuvre d'Amos Gitai, ce qu'on appelle la trilogie des frontières, qui est composée de terres promises, free zone et des engagements, qu'on a déjà bien évoqué ici. Mais j'en dirais tout autant, par exemple, avec Alila, un film de 2003, même si ça n'a pas l'air d'avoir cette vocation du tout, il s'agit de l'adaptation d'un roman, Retour des amours perdus, de Yoshua Kenaz, mais pourtant c'est bien une archive des manières d'habiter, de cohabiter de manière conflictuelle dans un espace géographique, mais aussi historique, politique et émotionnel. Et si le film produit ces effets de sens, de compréhension, c'est en très grande partie, au-delà de ce que racontait le livre et dont s'inspire assez directement le film, grâce à ses stratégies de mise en scène, à ses choix dans la manière de raconter une histoire qui est aussi toujours déjà de nombreuses histoires, ainsi que Amos le dit lui-même à la fin du poème Carmel que nous avons entendu hier, lu par André Wims. Bien sûr, ces partis pris très affirmés de mise en scène sont des partis pris différents de film en film et qui à chaque fois produisent cet effet d'archive. On en a eu un exemple éclatant, me semble-t-il, ce matin avec Anna Arabia. On en a un autre avec un film qui est sorti récemment, Un tramway à Jérusalem. Sans être une règle générale, le cinéma de Gitai se construit très fréquemment sur un rapport à des lieux ou à des trajets dans l'espace. Berlin, Jérusalem, l'arène du meurtre, terre promise, free zone, à l'ouest du Jourdain, et bien d'autres en font état dans leur titre. Mais c'est aussi le cas d'autres films, y compris de films situés hors d'Israël et de Palestine, pas au Moyen-Orient. On n'a pas forcément été très attentif, à part lors de l'intervention de Marie-Pierre Hulua hier, sur le fait que tout le cinéma d'Amos Gitai n'est pas situé au Moyen-Orient, même si la région d'Israël et de la Palestine y occupe évidemment une place tout à fait essentielle. Mais c'est aussi vrai, et on l'entend dans les titres de Bangkok, Bahreïn, ou dans la vallée de la Vouber, par exemple, où ce rapport à l'espace ou à des trajets est aussi central dans Ananas, dans Tzili, ou même d'une certaine manière dans Rosa Crédit, pour citer cinq films extrêmement différents. Il est possible d'évoquer la formation d'architecte d'Amos Gitai pour expliquer cet ancrage spatial, et ce serait sans doute exact. Mais l'essentiel, c'est que cette inscription territoriale lui offre, selon des modalités très variées, très créatives, des possibilités d'accumuler et de dramatiser une foule d'informations factuelles réelles. Car faire archive, c'est constituer des assemblages qui produisent du sens. Et de ce qui fait archive dans le cinéma de Gitai, c'est en particulier la présence des corps, des voix, des langues, auxquelles, à nouveau, hier, Emmanuel de Marcimota faisait à juste titre allusion. Témoin attentif des proximités et des écarts entre Palestiniens et Juifs israéliens dès les documentaires House et Wadi au tout début des années 80, c'est-à-dire au début de sa carrière professionnelle dans le cinéma, Amos a depuis apporté un soin extrême à réunir, il le disait encore ce matin, dans ses castings, des personnages aux origines et aux statuts différents, à faire entendre les langues et les intonations, en particulier de cette région du monde que depuis notre occidentalocentrisme sur de lui et dominateur, nous appelons le Moyen-Orient. Il ne s'agit pas là d'un œcuménisme bien-pensant, d'un casting arc-en-ciel ou respectant des quotas d'appartenance ethnique, et de genre pendant qu'on y est, comme c'est devenu si fréquent. Il s'agit de rendre sensible ce qui distingue, ce qui permet de garder trace de comment bouge, parle ou se tait un enfant de Ramallah, une native de Tel Aviv, une jeune juive progressiste américaine, un vieux paysan des collines près de Naplouse. Et cela aussi fait archive. Comme on l'a entendu ici à plusieurs reprises depuis hier matin, Amos aime à proposer la double comparaison, ou plus ou moins la mise en équivalence, film de fiction, architecture, documentaire, archéologie. Et comme il le sait, malgré l'évidence intuitive de ces deux rapprochements, je ne suis pas d'accord avec lui. Et puisque j'ai l'honneur en ce moment de parler à une tribune où s'exprima jadis l'auteur de l'archéologie du savoir, il peut sembler approprié de convoquer Michel Foucault pour insister sur la dimension constructiviste proactive de l'archéologie et affirmer combien l'ensemble du cinéma d'Amos Gitai est une archéologie du savoir, au sens de Foucault, par des moyens particuliers, où les films qui relèvent, à n'en pas douter, du domaine documentaire, relèvent tout autant de l'architecture que de l'archéologie. C'est-à-dire que ce sont des films qui construisent, ce sont des films qui créent, tout autant qu'ils mettent à jour de l'existant plus ou moins enfoui. Cette distinction entre documentaire et fiction, qui existe, et dont je ne suis pas, il n'est pas... Le propos n'est pas de la nier, il est d'en montrer les permanents dépassements et les permanentes interactions entre ces deux pôles qui tous les deux font tout le cinéma. Cette distinction, elle est d'une efficacité, mais une efficacité limitée. L'exemple le plus évident, peut-être, serait le dernier jour d'Isaac Rabin, qui a comporté ce gigantesque travail de recherche de documents, avec en particulier cette collaboration précieuse qui est celle de Rivka Gitai et qui, sans laquelle ce genre de choses sans doute ne serait pas possible. Autour de l'assassinat de Rabin, ce film, qui déjoue la séparation entre documentaire et fiction, mais revendiquerait à bon droit la formule d'Orson Welles « It's all true », fait bien davantage qu'accumuler les informations enfouies sur des étagères ou dans des disques durs. S'il construit une archive de l'assassinat de Rabin, archive politique et émotionnelle tout autant que factuelle, journalistique au sens le plus restreint, c'est bien par le travail de composition auquel se livre le cinéaste à partir des matériaux accumulés. Dans la mise en circulation par le cinéma d'éléments factuels bruts, l'archive au sens le plus primaire du mot, d'éléments factuels reconstitués, au plus proche de la reconstitution, et de documents qui n'ont pas besoin d'être authentiques pour participer de la construction de la vérité, voire de scènes complètement fictives, se construit une manière de documenter un événement, y compris dans sa profondeur historique. Ce film-là, « Le dernier jour d'Isaac Rabin », n'était pas faisable au lendemain de l'assassinat de Rabin. À ce moment-là, le film qui était possible était « La reine du meurtre », et bien sûr, Amos l'a fait, et pour La Reine du Meurtre, il a effectué cet immense travail de recherche documentaire, notamment dans les images filmées, dont on voit une diapo ici, qui va ensuite nourrir le film complètement différent que sera Le Dernier Jour d'Isaac Rabin. C'est 20 ans après qu'il est possible de composer Le Dernier Jour, qui est aussi, politiquement et émotionnellement, l'archive de cet écart temporel. L'extrait, donc on va regarder un bref extrait de ce film, on en a déjà vu plusieurs, mais celui-là adresse d'une manière particulière la question de l'archive. Il prend place, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, juste après celui qui nous a été montré hier matin et où on avait assisté à l'assassinat, au tir des coups de feu sur Rabin et à son corps qui était emmené dans la voiture. Laurent.
Le mouzar, si la calette est à zot, si monsieur Tzilem, et à Rouen, au Raza, Bizman, et Met, ça t'a Tzilem, au Raza.
הרוצח הצליח להישאר 40 דקות בלי שיראו אותו, באזור שאמור היה להיות אזור סטרילי.
ניתן להסיק שלא הייתה כל התייחסות לעניין האבטחה באזור החניון הצפוני. כל פיקוח על הקהל שבו, הסיכונים מצד הולכי הרגל שבאים ממזרח וממערב, התאורה בחניון, בניין הגג של... גן העיר. וכל הדברים האחרים שקשורים לאזור הזה. אזור הידוע לידיעת הכל כאזור מעבר של ראש הממשלה, שר החוץ, כל המוזמנים אל העצרת. אזור המשמש כמעבר בין הבמה המסוננת אל המכונית המאובטחת, וידוע כתפר. אזור מאוד מאוד מסוכן, שדורש תשומת לב מיוחדת. זאת נעדרה כאן כליל.
חזר on the record לצורך הפרוטוקול על השתלשלות האירועים ב-4 בנובמבר, מרגע שהגעת לכיכר.
בערב הגעתי לכיכר, אני לא זוכר באיזה שעה, 7:30 אני מניח, משהו כזה. איך שאני מגיע לכיכר, חשבתי איפה המקום הכי טוב לצלם, ואמרתי, בטח הכי קרוב לבמה, זה המקום הכי טוב לצלם. שם נעמדתי, היה מאוד צפוף, היו הרבה מאוד אנשים, ולכן גם התמקדתי שם רוב הזמן. הקטע הכי חשוב היה בעצם לצלם את הנאום של יצחק רבין. צילמתי את הנאום של רבין, הייתי מאוד מרוצה, ואחר כך הגעתי למסקנה שבעצם אין טעם להישאר במקום. היה נורא צפוף, נורא דוחפים אנשים, וגם אין כל כך טעם להישאר להופעת האומנים, כי זה לא היה הדבר הכי חשוב בסרט. אז הלכתי, והתחלתי לחפש איך אני גומר את הקטע של העצרת. הסתובבתי, פחות או יותר, ואז ראיתי מכונית שרד גדולה של ראש הממשלה. אני חושב, אני לא יודע של מי זה, מכונית ממשלתית שם.
ובשלב הזה, אחרי נאומו של ראש הממשלה, איפה עמדת? עוד לא למעלה.
עמדתי למטה, אבל לי, אצלי באיזשהו מקום הייתה תחושה שאני מאוד לא רצוי שם. גם לא היו לי צילומים טובים, אני צפוף.
אנחנו ראינו שמזיזים אותך לפי התנועות של המצלמה.
השוטרים לא אמרו לי לעלות למעלה, לא. אני לא הייתי בסיכון של חשוד. מאוחר יותר, כשעליתי למעלה, התחלתי לצלם. עליתי לגן העיר.
מאיפה עלית?
דרך הקניון עצמו. זאת אומרת, לא דרך היציאה של המכובדים, שם לא.
מה עשית למעלה?
התחלתי לצלם וראיתי את האי סדר הגדול הזה. ומשום מה התחילו אצלי תחושות מאוד לא טובות. אין לי הסבר למה.
אני רוצה להראות לך רישום של המקום. תתלווה אלינו לארכיון, בבקשה. כאן, חוץ מאיש ההבטחה שאמרת, היו עוד שוטרים?
אני חושב שהיו שני שוטרים, שניים סמויים. אחד מהם ניגש אליי.
על מה הוא דיבר איתך?
השוטר הוא זה שבעצם הכניס אותי הכי ללחץ מהבחינה הזאת. הוא היה בסדר גמור, הוא תחקר אותי, הוא שאל מה אני עושה פה, איפה אני מצלם. הוא מסתכל על המצלמה לראות שאין משהו חיבורי, משהו מוזר. ביקש תעודה, את כל הפרטים. ככה דיברתי איתו, שאלתי אותו, אתה לא רואה מה קורה פה? הוא לא כל כך אהב את השאלה. אני גם לא זוכר אם הצגתי לו את זה בדיוק ככה. בכל אופן, מאוחר יותר, אחר כך הוא אמר לי, תראה, אני מרשה לך לצלם הכל, אבל תצלם רק את רבין כשהוא נכנס למכונית. אל תצלם אותו כשהוא יורד במדרגות עד שהוא נכנס למכונית. אחרי השאלה הזאת, אתם כבר מבינים באיזה הרגשה הייתי. התחלתי לדמיין כל מיני דברים, אחרי שאומרים דברים כאלה.
מה אמרת לו?
אמרתי לו, תראה, אני לא חושב ש... אני לא חושב שיש לך זכות להגיד לי מה לצלם. יש פה משהו סודי. הוא אמר, תראה, אין פה משהו סודי, אבל אם אתה תמשיך להתעקש, אני יכול להרחיק אותך מפה. אמרתי לו, תראה, אם אתה רוצה להרחיק אותי, תרחיק אותי, אבל אני אגיש נגדך תלונה במשטרה. אני לא חושב שיש לך זכות להגיד לי מה לעשות. ואז הוא אמר, טוב, בסדר. הוא ויתר לי ואמר לי לעמוד שם, ואז צילמתי שם את הקטע.
מה הרגשת שצילמת את זה?
כבר באותו רגע, אחרי שדיברתי עם השוטר.
On a une sorte de condensé dans cette séquence où on voit où il ne peut pas être douteux que les gens que nous voyons sont des acteurs. On est c'est filmé 20 ans après les événements dont il est question, en même temps dont il y a une grande confiance dans l'exactitude des procédures et des manières de faire, qui en même temps construit, rend présent dans l'image des images de la télévision, donc réellement tournées sur place, qui met en contiguïté dans le temps et dans l'espace, par un choix de mise en scène d'Amos, un plan séquence qui fait qu'on voit d'abord les enquêteurs qui discutent entre eux, puis ce mouvement de caméra sans coupure, où on se retrouve avec le caméraman qui a été convoqué pour témoigner, alors que c'est absolument impossible, naturellement, que ça ait lieu dans le même espace et au même moment, mais qui intègre cette continuité qui permet même à la fois de s'entourer de la présence visible d'archives, de documents, de dossiers qui couvrent les murs, d'un plan qui est même des images qui défilent et donc du dialogue de ce personnage de fiction montrant sur les images réelles comment ça s'est passé, comment il a filmé et en reconstituant un dispositif qui intègre aussi son avis, son opinion, son sentiment qui font partie de l'événement lui-même, même si c'est pas dans la même régime ou de la même nature, et donc qui condense dans cette scène un format possible de mise au travail ensemble, de rapport à l'archive historique de l'événement assassinat d'Itzhak Rabin par ses moyens de cinéma. Et ça pourrait être qualifié, me semble-t-il, du nom d'enquête, une enquête qui est une enquête par les moyens du cinéma, c'est-à-dire qui obéit à des règles qui sont en partie différentes de celles de l'enquête policière ou de l'enquête journalistique ou de l'enquête ethnographique ou de l'enquête historienne, qui ont chacune leur légitimité et leur procédure. Mais on peut aller au-delà de ce niveau-là de production d'archives. Depuis hier, on l'a bien entendu, le mot archive est employé en référence à des sens ou à des usages très différents, qui portent par exemple à la fois sur les archives du cinéma d'Amos Gitai, celles qu'il dépose par exemple à Stanford, à la BNF ou à la Cinémathèque de Lausanne, et à la manière dont ces films font archive, produisent de l'archive, que ce soit d'ailleurs ou non leur projet. Le cas d'Amos est à cet égard particulièrement remarquable. C'est même un cas rarissime de cinéaste, ça a été rappelé ici, et même d'artiste ayant à la fois pensé son cinéma comme producteur d'archives et pensé l'usage de ses propres archives bien au-delà de leur simple conservation et éventuelle valorisation dans le sens classique du terme. Frédéric Maire, Joël Utfol, Pierre-Marc de Biasi, Uzi Eliada et Keren Mok l'ont chacune à leur façon et selon des approches différentes, en ont bien explicité les nombreuses facettes hier et aujourd'hui. Mais je voudrais ici en souligner la cohérence, et plus exactement souligner la fécondité et la dynamique de cette cohérence entre ce qui fait archive dans les films d'Amos et le rapport à l'archive à propos de ces films qu'il met en place. Les films, les œuvres en général, méritent toujours d'être d'abord considérés dans leur singularité, leur autonomie, film par film. Mais dans le cas d'Amos Gitai singulièrement, il y a énormément à découvrir en considérant une démarche d'ensemble dont fait partie l'ensemble de son travail créatif, aussi bien que les stratégies élaborées à partir de ses archives. Des stratégies qui sont d'ailleurs dans une certaine mesure esquissées par les différentes institutions que nous avons entendues et où beaucoup restent à inventer, me semble-t-il, notamment avec les outils du numérique. Mais ces archives, avant d'être confiées à diverses institutions qui ont été soigneusement choisies selon des stratégies qui ont été en partie explicitées ici, elles figuraient déjà donc dans les films d'Amos. Dans ses réalisations, il ne cesse en effet de réemployer des images, des sons venus des précédents films. Il ne s'agit pas ici seulement de la marque d'un auteur, de la politique des auteurs dont parlait Richard Peignard tout à l'heure, de la, des effets de signature où quelqu'un se citerait, s'auto-citerait. Il s'agit même très très peu de ça, et les usages qu'il en fait ne sont pas de l'affichage, sont même le plus souvent très discrets. Mais il s'agit d'une construction de sens au long cours où chaque film, au-delà de ses enjeux, au-delà de ses qualités singulières, au-delà de sa raison d'être comme objet, comme œuvre singulière, est aussi une composante d'un projet global de compréhension du monde, un projet qui s'invente en marchant. Tout architecte qu'il est, Amos n'a pas dessiné le plan complet de sa carrière avant de commencer à la construire. Et même s'il a déjà 12 nouveaux projets en cours, il ne connaît pas encore les 24 suivants qui ne vont pas tarder à apparaître. Mais ce projet, il existe bien, et nous en sommes témoins, a posteriori, comme quelque chose qui se développe avec... J'avais utilisé une fois une métaphore de l'arbre comme quelque chose qui pousse dans plein de directions, mais avec une unité, et qui est le cinéma et l'œuvre d'Amos Gitai, et où on se souvient à ce moment-là que cette accumulation de composantes qui réapparaissent de film en film, c'est la façon qui fait que des éléments, des documents font archive, dans la mesure où ils sont incorporés, où ils composent une mise en forme destinée à produire davantage que la somme des éléments qui les composent. Il faut encore ajouter une autre dimension, et c'est toujours pas la dernière. Celle des autres archives dont Gitai s'est directement et très activement occupé, à savoir celle de son père et celle de sa mère, en faisant exister des livres, des films, des expositions, des lieux de documentation les concernant. Il y a bien sûr une dimension personnelle, active, affective, filiale, dans cet immense travail de mémoire autour de Mugnot et d'Efratia. Mais il y a aussi, et du même mouvement, une conscience aiguë des richesses d'accumulation, de comparaison, de mise en résonance, qui viennent de ces deux ressources qui sont liées, associées à son père et à sa mère. Et dont, bien sûr, les deux films directement consacrés à ses parents, Carmel et Lullaby for My Father, fournissent le témoignage le plus explicite. Par exemple, si Carmel est entièrement construit autour du personnage d'Efratia, la mère d'Amos, c'est aussi un moyen de prendre en charge et de commenter une histoire infiniment plus vaste. Ouais. Un petit extrait de Carmel, si possible.
היות שהחלטת להיות בכפר מסריק, החלטתי אני להישאר בלונדון.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
טוב.
עובד קשה?
כן.
לא יותר מדי. נכון? שומר על עצמך?
כן.
בשר דש? היי!
Thank you. תעיף אותו! הודעות בפה! אל תעבוד בפה!
עכשיו,
עכשיו,
כן, עכשיו, יאללה, בוא,
לא,
הוא
נעשה
שם,
הוא נעשה
גם את
הידיים, צעק לך. אהפה!
תצא החוצה! מה זה בקרה? מה קרה לכם, אתם? זה מה זה? 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 מה זה?
ולא הדרו פני שרי קודש, אם המיתו זקנים ועוללים, אדיוטות וכהנים יחד. בחרב האויב עמלה את כל משפחות העם מסביב. גם המבקשים חנינה וגם העומדים על נפשם, שחטו בלא חנינה. וכל משק הלהבה עולה למרום, התערב בכל ענקת החללים. מפני גובה הר הבית וגודל הבניין הלוהט באש, נדמה דיין רואה כי כל העיר בוערת. ואיש לא יוכל לשער בנפשו דבר נורא והיום מכל הצעקות במעמד ההוא. כל תרועת הלגיונות הרומאים השוטפים בענקות המורדים אשר הקיפו אותם האש וחרבות השונאים ועילת העם העזוב העומד בלמעלה אשר נדחף בבעלה אל תוך האויבים לקראת המוות ונעקות השבר, כל אלה חוברו יחדיו ולכל הצעקות העולות מהר הבית
ונחזנו את חירותנו אלי קבר
כי אנשים רבים, אשר קילה, חרעה ולחם ולשונם
בשביל ולא לי יוסל לי מבדין את החוצי במיירן אל עדון ודמר
והד הרמה אשר מעבר לנחל והערים שמסביב לעיר חזקו את הצעקה
הרבה
אולם הכאב היה גדול ונורא מכל הצעקות
וואו
בפתח דבריי, נאי לי להזכיר מי אתם ובמי אתם עתידים להילחם. בין לזרוע גבורתנו לא נמלט איש מגויי הארצות, רק היהודים האלה. ובזה נדבר בשבחם.
אולם נחלי אדם גבורות על להבות האש. ומספר הנשחטים היה רב ועצום ממספר שופטיהם. ובכל מקום לא נראתה האדמה תחת מכסי החללים. ואנשי הצבא דרכו על טילי בוגרים ברודפם אחרי הבורחים.
טוב להם שם אספסוף משם צבא. אתם רוצים למלחמה בנשק כבד כנגד שונאי כלי הנשק. אתם יוצאים אליהם בסוסים והם באים לקראתכם ברגל. עדיכם נמצא איתכם במערכה והם באים עם הורים.
On a entendu hier ici même employé à bon escient à ce moment-là le terme de palimpseste à propos de certains dispositifs employés par Amos. Mais ici, il s'agit de bien autre chose qu'une superposition de couches. Il s'agit de bien autre chose qu'une sorte de support qui aurait simplement reçu et superposé des couches les unes au-dessus des autres. Il s'agit, et c'est plus important, plus beaucoup plus productif d'une dynamique intérieure dans la constante mise en mouvement d'éléments visuels, sonores, idéels et émotionnels. J'ai dit tout au début, tout le cinéma fait archive, et donc je dis, je redis, le cinéma de Guitaille fait plus et mieux archive qu'aucun autre. C'est qu'il y a chez lui, et cela se retrouve dans ses installations, exposées dans les grands musées et galeries du monde entier, dans ses spectacles joués sur les scènes les plus prestigieuses, comme dans ses films, bien entendu, un rapport particulier à, à la ressource, à la trace, comme potentiel dynamique, à la fois affectif, personnel et politique. D'autres grands cinéastes ont fait de l'histoire, au sens des historiens, mais d'une manière particulière, avec les moyens du cinéma. Et je pense ici d'abord à ces deux grandes figures, qui sont d'ailleurs par ailleurs à tant d'égards parallèles, que sont Jean-Luc Godard et Chris Marker, même s'il y aurait évidemment d'autres noms. Et Amos aussi a fait de l'histoire. C'est ce que Uzi Eliada a très pertinemment, très brillamment rappelé ce matin. Mais faire de l'histoire au sens où produire un discours qui décrit une situation n'est pas exactement la même chose, me semble-t-il, que de constituer une archive, c'est-à-dire une ressource qui va servir à d'autres ensuite. Et d'autres cinéastes ont aussi enregistré leur existence à travers le passage du temps. Je pense en particulier au grand cinéaste diariste dont Jonas Mekas demeure la figure exemplaire. L'apport, ou un des principaux apports d'Amos Guitaille, me semble tenir au lien très intime, très noué, entre implication personnelle, y compris familiale, et approche politique. Et cela renvoie, je crois, en particulier dans la place qu'occupe émotivement, intellectuellement, mais aussi plastiquement, à un événement fondateur dans sa propre existence. Amos Guitaille utilise, explicitement ou implicitement, les précédents films comme archives de quasiment chaque nouvelle réalisation. Il est donc à lui-même sa propre archive. Mais il y a encore davantage qui est peut-être plus souterrain. Cela concerne la trace indélébile laissée par sa mobilisation dans l'armée israélienne au moment de la guerre de Kippour en octobre 1973. Affecté à une unité médicale chargée de récupérer les soldats blessés sur le plateau du Golan et de les ramener en hélicoptère, le jeune Amos Guitaille frôlera la mort de très près lorsque son hélicoptère sera abattu en plein vol par un missile syrien le jour même de son 23e anniversaire, c'est-à-dire le 11 octobre. Un de ses camarades est tué, plusieurs autres sont blessés, la plupart très grièvement. Cet événement du 11 octobre occupe une place décisive incontestable dans l'activité cinématographique de Guitaille. Celui-ci avait déjà commencé d'utiliser une caméra pour des petits essais filmés amateurs, mais qui était déjà porté par une visée artistique qui visait plutôt du côté des arts plastiques que du cinéma. Il avait emmené sa caméra sur le front et il a filmé de nombreuses scènes de guerre in situ pendant qu'il était sur place pendant la guerre de Kippour. Mais ensuite, et à partir de cet événement central, ce tournant du 11 octobre, il va réutiliser ces images et il va réaliser une série de films, trois courts-métrages qui sont réunis sous le titre commun « Images de guerre » de 1974, un film expérimental qui s'appelle « Ahare », ou After, ou Image d'après-guerre, aussi en 1974, qui montre l'uniforme que portait le soldat Guitaille lorsqu'il a été blessé et qui est accroché à un cintre et qui pend dans le vide comme un fantôme, auquel répondent des signes graphiques qui cherchent, dans une écriture inconnue, artistique, la possibilité d'un sens. Plus tard, il réalise le documentaire Souvenirs de guerre, en 1997, où il retrouve certains de ses anciens compagnons. Et enfin, évidemment, un grand film, un film majeur, Kippour, ce long métrage réalisé en 2000, qui est présenté la même année au Festival de Cannes, où il obtient un grand succès, et où on peut dire que, dans une certaine mesure, il établit la stature de cinéaste international de première grandeur d'Amos Guitaille. C'est aussi, rappelons-le, son premier film écrit avec Marie-Josée Sancel. Il ne fait aucun doute que la violence de l'expérience vécue au moment où son hélicoptère a été abattu pendant la guerre, déjà sur le terrain, et au moment où l'hélicoptère a été abattu, est une expérience qui joue un rôle important, décisif, dans la vie personnelle, psychique et affective d'Amos Gitai. Et c'est bien ainsi qu'il va mettre en scène, dans ce film de 2000, une expérience traumatique qui se transforme alors aussi en histoire d'une nouvelle naissance. Il est, entre guillemets, remis au monde après avoir manqué d'en être retranché par le fait d'avoir survécu à ce qui aurait dû le tuer dans la déflagration de l'impact du missile frappant son hélico. Mais il est aussi accouché par l'expérience de la guerre, ce rapport fusionnel à la fois à la terre et au groupe humain dans l'extrême tension du danger, de la peur, de la violence. C'est l'essentiel de ce que montrent obstinément, obsessionnellement, les longues séquences de Kippour, décrivant les survols du territoire en guerre et les missions au sol, dans la boue et la confusion, sur une terre labourée par les chenilles des blindés, jusqu'à sembler porter une écriture indéchiffrable. La destruction de l'hélico et ses suites, qui sont évidemment le moment dramatique essentiel du film, n'en occupant en fait qu'une toute petite partie en termes de durée. Ce rapport à la matière, à la terre, au magma originel, mais aussi à la chair humaine comme masse indifférenciée que constitue le petit groupe de soldats et, le cas échéant, le corps de ceux qu'ils tentent de sauver, est matriciel. De là sortiront un être neuf qui s'appellera Weinraub, le nom du père d'Amos dans le film, et Amos Gitai, homme, citoyen, artiste, cinéaste dans la réalité. Cette thématique de la matrice possède évidemment, et pour chaque être humain, un versant psychologique sous les auspices du rapport à la mère, figure décisive du rapport au monde d'Amos Gitai, on le sait. Elle possède aussi un versant politique, particulièrement pertinent dans toutes les sociétés, mais particulièrement pour la société israélienne, où la relation fusionnelle individu-terre-communauté est si prégnante sous des formulations variées. Cette thématique possède encore un versant esthétique et un versant érotique, fusionné dans le cas du film Kippour avec le prologue et l'épilogue où le jeune soldat fait l'amour dans la peinture, à même la toile, dans un rapport à la matière colorée qui répond et sublime le rapport à la boue et à la chair, à la fois par le sexe et par l'art, de même que l'orgasme est filmé comme un surgissement au monde par le plaisir qui reprend la venue au monde par expulsion du magma mortel que montrera toute la partie centrale du film. On pourra encore ajouter un grand nombre de dimensions religieuses, intellectuelles, plastiques. Cette totalité informe d'où peut naître la vie, ce magma d'où peut s'extraire l'individu, dans un geste qui est à la fois de naissance biologique, de constitution de soi comme citoyen et de création artistique. Cette matière mère n'est pas muette. Elle porte des signes susceptibles d'être interprétés. Et j'aurais envie, même si je me risque sur un territoire où je ferais peut-être mieux de ne pas trop m'aventurer, de comparer de ce point de vue-là ce que fait ce film-là avec le travail de la Kabbale, le travail d'interprétation des signes, de retravail sur les signes, mais pas les signes issus du texte sacré, les signes issus du monde réel, les signes issus des corps et de la présence des êtres humains. Cet assemblage d'images, peut donner lieu à encore une autre proposition qui déploie encore plus cette notion d'archive à un autre niveau. C'est un exercice auquel je me suis risqué, c'est un peu aventureux là aussi, et qui a consisté à extraire des images, des photogrammes de Kippour et de les associer à des images de tous les autres films réalisés par Amos, en ayant l'impression, plus intuitive que scientifique, d'y repérer des échos, des connaissances. J'ai fait ça dans une partie du livre que nous avons fait ensemble, Amos, Marie-Josée et moi, qui s'appelle Genèse. Donc là, donc les images qui sont sur la ligne du haut viennent de Kippour et toutes les autres viennent de tous les autres films d'Amos. Je les fais défiler comme ça, je ne vais pas les commenter ici, comme une proposition qu'il y a, en particulier dans le film Kippour, une sorte de banque de données visuelle, formelle, plastique, esthétique, liée au traumatisme de ce qui lui est arrivé le 11 octobre 1973 et qui produit des formes à l'intérieur de son cinéma et qui active des réactions que nous avons, nous, comme spectateurs, qui ne sommes pas nécessairement, et même d'une manière générale, pas sensibles à ces rapports-là, néanmoins, par des effets qui sont alors là purement liés à la puissance des formes. Avec cette proposition, qui s'aventure aux confins de l'interprétation, j'essaye de donner à percevoir que si le cinéma d'Amos Gitai est à ce point en phase et en phase dynamique avec la notion d'archive, c'est sous l'effet d'un mouvement intérieur qui mobilise les forces les plus intimes, voire les plus obscures, aussi bien que le savoir, la sensibilité, la réflexion, le talent, dont il n'est pas vraiment besoin de souligner combien ils lui sont généreusement partagés. Je vous remercie.